Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, podcast en toute intimité avec Mamie Lamie encore une fois.
Salut tout le monde.
Eh oui, car l'équipe de Game Info étant en vacances, eh bien voilà. Enfin, en vacances. Non, il y a toujours Marvin qui s'est exploité, mais c'est normal.
Oui.
Donc, au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de Square Enix qui tente de faire interdire une traduction. Nous vous parlerons également de l'ESA. Mamie, ça signifie quoi ce sigle déjà?
C'est l'Electronic Speedster, l'European Speedster Assembly, pardon.
Voilà, donc qui est un autre marathon de speedrunning auquel participera Mamie. Nous évoquerons également la manette Steam qui revient sous une nouvelle forme. Nous enchaînerons ensuite sur les Kickstarter et les Early Access qui sont en plein avis de tempête. Et en jeu du moment, nous aurons un jeu très rétro, n'est-ce pas, Mamie?
Ouais.
Jeu auquel tu joues beaucoup en ce moment, car tu vas bientôt le speedrunner, n'est-ce pas? On attend ton world record, hein, attention. Donc, ce jeu, c'est A Shovel Knight, un jeu qui, d'ailleurs, avait été financé sur Kickstarter à la base.
Eh oui.
Alors, on va commencer, Mamie, avec Square Enix. Alors, Square Enix, pour vous présenter un peu l'affaire, il faut savoir qu'il y a un jeu qui est sorti il y a un certain temps sur PSP qui s'appelait Final Fantasy Type Zero. Donc Final Fantasy Type Zero, qui n'a jamais été traduit, hélas. Et ce jeu, donc, ce Final Fantasy, a récemment bénéficié d'un patch amateur après plusieurs années de travail. Des amateurs ont finalement réussi à sortir un patch, bon, qui était pas tout à fait terminé, il y avait 2-3 bricoles qui étaient pas traduites, mais globalement ça traduisait la totalité du jeu en anglais, donc dans une langue compréhensible à nous autres occidentaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, entre-temps, Square Enix a annoncé une nouvelle version de Final Fantasy Type Zero sur Next Gen, un portage HD en quelque sorte, si vous voulez. Il se trouve que ce portage HD sortira dans nos contrées, n'est-ce pas? Vous vous imaginez bien que ça pose un souci. Et donc, Square Enix a tout simplement contacté le site par le biais d'un avocat et leur a fait retirer toute mention de ce patch sur leur site. Voilà, voilà. Personnellement, j'ai tendance à considérer que ce genre d'initiative, ça ne sert pas à grand-chose une fois que le patch est sorti, qu'il est disponible à peu près partout sur BitTorrent.
Oui. Bah, ça, c'est bien comme c'est. Enfin, c'est bien. Ils incitent au piratage. Ils ont tout compris. Encore une fois, d'ailleurs.
Parce que il faut préciser une chose, c'est que le patch qui était disponible sur le site officiel qui s'est chargé donc de la traduction, il y aura le lien dans la description du podcast, ce patch-là, en l'occurrence, nécessitait de posséder le CD original de la version boîte, quoi, parce que ce patch a besoin de fichiers qui sont dans la version boîte du jeu, en fait. Donc tu es obligé d'acheter la version japonaise pour pouvoir patcher ton jeu, en fait, tout simplement.
Voilà.
Donc ils ont fait supprimer la seule version légale, enfin entre guillemets, quand je dis légale, ça veut dire que la seule version qui aurait pu inciter des gens à acheter le jeu, en fait, parce que résultat des courses, le seul truc qui reste sur Internet maintenant, c'est la version ISO déjà patchée par quelqu'un qui a patché son ISO qu'il a mis en ligne sur BitTorrent. Donc c'est la seule version qui est disponible. Donc la seule version disponible sur PSP, c'est celle-là. Voilà. C'est idiot. Je sais pas quoi dire. Hein. C'est idiot parce que déjà ils se mettent tout leur fanado pour rien, en plus vu que le patch est déjà disponible partout. Donc en plus. Comme ils ont fait supprimer le patch, bah tout le monde en a parlé, donc tout le monde est au courant maintenant. Super, ils nous ont fait une pub du tonnerre à ce patch. Et puis voilà, ça sert à quoi de faire ça? Encore, le patch ne serait pas sorti, ce serait encore en projet. Je trouvais ça quand même stupide, mais au moins ça ferait sens, tu vois. C'est-à-dire que le patch est pas sorti, on leur coupe l'herbe sous le pied avant que ça sorte. Mais là, le patch est disponible partout sur BitTorrent. Qu'est-ce que tu vas interdire ce truc?
Non, bah c'est un éditeur sans vouloir être péjoratif. Ils ont tendance à se protéger bêtement, la plupart, hein, bien sûr. Là, Interdire un patch de traduction, c'est un peu con dans le sens où ça leur épargnerait du boulot, quoi. Je sais pas s'il est bien fait ce patch là, mais je suppose que oui.
De ce que j'ai vu, parce que j'ai pas encore terminé le jeu, je fais 36 jeux en même temps là, en ce moment. Ça a l'air plutôt bien fait. Bon, il y a des trucs qu'il faut finir, mais bah, globalement, ce qui a été fait, en tout cas, c'est la bonne qualité.
Hein. Voilà. Donc,
en tout cas, c'est mieux que la traduction de Final Fantasy VII, par exemple.
Mais ça leur aurait épargné pas mal de travail. Ça aurait peut-être même été intéressant de voir avec ceux qui ont fait le patch pour bosser avec eux, j'en sais rien.
Bah, surtout qu'en plus, je me rappelle de messages sur le site qui s'est chargé de la traduction. Les gars disaient clairement qu'ils seraient fiers que Square Enix prenne leur patch et qu'ils le mettent sur le jeu, quoi. Ils font ça pour l'amour du jeu, en fait. Et d'ailleurs, s'ils avaient fait ça juste pour pirater, je veux dire, ils seraient pas fait chier à faire un système où tu es obligé d'avoir la version commerciale du jeu pour le patcher. Hein, ça.
Ah bah oui, non mais bon, voilà, c'est Square Enix a pas bien réfléchi à son truc et puis ils se rendent impopulaires. C'est ça qui est dommage. Et ce qui est encore plus dommage, c'est qu'ils avaient pas besoin de ça, quoi, pour se rendre impopulaires. Donc au contraire, là, ils auraient pu augmenter leur popularité avec ça, bon, ils ont fait les cons.
Voilà, nous allons passer à la suite maintenant, et c'est toi qui vas prendre la parole, mamie. Oui. Tu vas donc nous parler de l'ESA. Alors, oui. C'est un marathon de speedrunning où tu vas participer, mais cette fois, rassurez-vous les gens, mamie Nani sera juste commentateur, hein. Il ne sera pas debout tout le temps, hein. Il va dormir cette fois. Donc, mamie, peux-tu nous parler de ce marathon de speedrunning? Est-ce que c'est caritatif aussi? C'est juste un pur marathon de speedrunning pour le fun?
Alors, l'ESA, donc je rappelle le nom, j'essaie de ne pas l'écorcher, l'European Speedster Assembly. C'est un marathon de speedrun comme la GDQ, sauf que ce n'est pas organisé par les mêmes personnes, c'est organisé par la team Ludendi, qui est une team de gamers fondée en Suède. Et que je ne dise pas de bêtises, c'est bel et bien caritatif. C'est pour comment ? Je perds mes mots aujourd'hui. Médecins sans frontières, encore une fois. Et donc, ça a lieu du dimanche 27 au dimanche suivant, mais là, je saurais pas dire exactement quel jour c'est, voilà. Et ça dure 7 jours aussi.
Et c'est diffusé où, tout ça?
Alors, c'est diffusé où? Sur Twitch, hein, parce que je suppose qu'ils ont fait la même que pour la GDQ. Si vous voulez donc les commentaires originaux qui seront en anglais quand même, parce que la plupart des runners, donc oui, tous les runners sont européens, j'ai oublié de le dire. Pour la grande partie, c'est des runners européens, c'est l'intérêt de ce truc là, c'est parce que tout le monde ne peut pas se payer un voyage à Denver. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est en anglais, donc il y a le stream en anglais qui sera sur Twitch, le stream de l'ESA, hein. Et il y a un restream français de chaîne Twitch, mais alors je ne saurais plus vous dire tout de suite, on vous le mettra en description tant que je les retrouve. Voilà, il y en a un sur le Twitch donc de Kanjo et un autre sur le Twitch de Heimdall, mais on vous mettra l'orthographe exacte. Et c'est par contre le restream français avec des commentaires français comme vous avez pu avoir sur la GDQ.
Donc ça y est, t'as bien dormi, t'es prêt, c'est bon, tu as pris tes cachets?
Ouais, j'ai tout, j'ai acheté le café.
C'est quoi comme run que tu as commenté, toi?
Alors, très exactement, je m'occupe de Spider-Man 2, Tomb Raider 2013, Legend of Zelda Phantom Hourglass, Bayonetta et Deus Ex Human Revolution Director's Cut. Pour l'instant.
Je sens que ça va que finir voilà. Comme certains marathons tu vas participer, vous savez comment c'est petit, ça grossit. Et à quel type de run on doit s'attendre? Est-ce qu'il y aura des races? C'est quoi le programme?
Il y a énormément de runs, hein, de runs normales. Il y a des races, hein. Ça, il y a pas de souci. Et surtout, la spécificité de ce marathon-là, c'est que donc il est divisé en deux streams différents, mais qui ont des horaires de diffusion toujours. C'est un marathon, quoi. Donc sur les deux streams, c'est un marathon. Ça leur permet de montrer plus de jeux, parce que contrairement à la SGDQ et la GDQ, là il y a un seul marathon par an. Donc ils ont décidé de faire ça donc sur deux streams. Ça leur permet de mettre des jeux du Schnapps aussi, sauf que ils balancent ça entre les deux streams, si tu veux. Ça leur permet d'avoir un plus large spectre de jeux et de ne pas mettre que des jeux ultra populaires comme les sempiternels Mario et Zelda, etc. Donc là, ils peuvent mettre un peu ce qu'ils veulent. Il y a des jeux inattendus. Il y a par exemple des jeux comme Grim Fandango. On s'attend pas forcément à les voir.
Là, je t'avoue que ça m'intrigue, mais ok. On va revenir voilà. Pointer clic, les mecs.
Mais non, mais c'est Win Momentum ou des jeux comme ça un peu bizarres à René. Donc c'est ça leur permet avec deux streams donc de faire ça. Et il y aura aussi il y aura des races, ça c'est sûr, des runs normales. Et il y a aussi des sur le deuxième stream. Des choses un peu plus rigolotes, comme par exemple un tutoriel de Taz qui arrive le premier jour. Il y a un moment des débats aussi, des débats sur le speedrun ou des choses comme ça. Enfin, il n'y a pas que du speedrun sur le deuxième stream. Il y a des petits récapitulatifs de dons, des trucs comme ça. Enfin, ils font ça un peu plus, ils font ça un peu plus détente et relax sur le deuxième stream, mais ça permet de voir plein de choses et pas uniquement du speedrun. Et il y a, je crois, une ou deux fois où ils font du Taz en direct. Enfin, des trucs intéressants à regarder parce qu'en plus, si tu veux, il explique bien comment il fait son Taz apparemment, etc. Donc ça peut être intéressant.
Voilà. Donc si pour vous le speedrun c'est sérieux, n'est-ce pas? Alors il y a le premier stream donc qui fera tous les runs que vous souhaitez. Hein, pas besoin de râler. Et si vous voulez un peu plus vous ouvrir. Il y aura le second, il y aura des trucs sympas.
C'est ça.
Bon, quelque chose à ajouter, mamie? On passe à la suite.
On passe à la suite.
Ok, on y va. Alors là, on va attaquer...
Appliquer le suite.
Ouais, non, mais comment tu veux que je me motive pour parler de ça? Non, sérieux. Donc, nous allons vous parler de la super manette Steam, qui en gros ressemble de plus en plus à une manette classique, sauf qu'on a toujours les deux espèces de machins là, qui ressemblent à des trackpads sur une manette, et révolution, ils ont mis un stick analogique.
Ouais, c'est un truc de ouf.
Pourquoi j'ai voulu parler de cette actualité cette semaine? C'est parce que plus j'en entends parler, en fait, plus j'ai l'impression que Valve va droit dans le mur avec son idée, quoi. Parce que, en fait, plus ça va, plus elle ressemble à une manette normale, en fait. Et si c'est pour faire une manette normale, je vois pas l'intérêt, quoi.
Bah, c'est à double tranchant comme truc. C'est-à-dire qu'on peut penser comme toi et se dire, putain, ça ressemble de plus en plus à une manette. Enfin, c'est vrai qu'avant, il y avait un pavé tactile et tout, mais c'était pas jouable avec leur premier retour joueur. Donc, donc il y avait ça, et puis on l'enlève, on met des vrais boutons, puis on va mettre un stick. Donc c'est vrai que du coup, ça ressemble à une manette classique sans D-pad. Mais moi j'aurais tendance peut-être à penser à être optimiste, à me dire que pourquoi pas, parce que du coup, déjà l'apparition d'un stick, moi ça me rend heureux. Parce que bon, les espèces de surfaces rondes là où il fallait caresser avec les pouces, je sentais moyennement. Mais là où je suis donc plutôt content, c'est que ça se rapproche d'une manette normale. Et au contraire, si tu veux, pour moi, une innovation qui fonctionne, c'est une innovation qui révolutionne pas complètement d'un coup. Là où j'ai eu plus de mal à accepter par exemple la Wiimote et le Nunchuk, c'est que voilà, c'est tiens, on va couper votre manette en deux, et puis pour ma part c'est injouable, mais même si tu veux, la révolution était trop grosse. D'ailleurs les gens ont boudé la Wiimote et le Nunchuk. Ça a donné quoi? Ça a donné la mablette sur la Wii U, qui est largement meilleure au niveau ergonomie et qui est quand même plus intelligente. Et Nintendo a compris, si tu veux, et du coup ils ont fait la Wiimote. La Wiimote, c'est plus un gadget de la Wii U, quoi. C'est plus la manette principale, parce que tous les jeux sont jouables avec les manettes pro, avec
si
la mablette, etc.
Si je puis me permettre une remarque, donc... Mamie, je te ferai remarquer que la Wii U ne se vend pas alors que la Wii s'est vendue.
Oui, mais c'est parce que la Wii U n'a pas encore de jeux. Et crois-moi, je te prierai de me faire confiance que la Wii U va finir par se vendre pas mal. La tendance, moi je prends, si tu veux, toutes mes tendances jeux vidéo, je les prends auprès de mes camarades de classe.
Attention, échantillon représentatif, s'il vous plaît.
Bah oui, non mais voilà, je pars du principe que, sans être prétentieux, il y a une meilleure connaissance du monde du jeu vidéo chez mes camarades de classe, vu qu'on est tous en études de jeux vidéo, si tu veux. Donc je pars du principe qu'on a qu'on sait un peu de quoi ça cause. Et tout le monde crachait sur la Wii U au début d'année, et là on est tous en train d'économiser pour s'en acheter une. Donc voilà, et pour l'avoir essayé moi-même pas mal pendant une semaine, c'est vraiment une excellente machine. Donc alors que j'étais le premier à cracher dessus, tu vois. Donc c'est pour ça. Mais tout ça pour dire qu'au final, si tu veux, quand on fait une innovation trop grande d'un coup, on laisse pas le temps aux joueurs de s'éduquer avec une nouvelle feature. Et du coup ça plante là Steam, si tu veux, si à la fin ils font une manette avec juste un périphérique supplémentaire qui est l'espèce de cercle où on carèche ça, pourquoi pas, tu vois. Ça reste Non mais c'est parce que moi je trouve ça très bizarre. J'ai hâte de voir les joueurs en train de caresser tout doucement avec leurs pouces les bordels. C'est une image que j'ai envie de voir un jour dans ma vie. Mais
j'imagine déjà les productions japonaises qui vont aller avec. Ça va être fascinant. Comprendra qui pourra. enfin. De toute façon, le succès de cette manette est conditionné au succès de la Steambox, donc je vais pas paraître pessimiste, mais...
Là, par contre, je mettrai un doute.
Ah bon ?
Bah, si ça peut devenir une bonne manette PC, pourquoi pas, hein ? Ça pourrait supplanter le pad Xbox One ou 360, hein. Si c'est une bonne manette.
À mon avis, tu surestimes grandement la capacité des joueurs PC à s'adapter à de nouveaux périphériques.
Bah, tu sais, en soi, le joueur PC, il jouera à la souris, et puis c'est marrant. Mais je parle de ceux qui utilisent des manettes. Ceux qui utilisent des manettes, ils s'en foutent. Enfin, en tout cas, moi, je sais que dans mon cas, je m'en fous. Du coup, parce que la manette Xbox One, elle est déjà pas faite pour PC au départ, si tu veux. Donc, si on me vend une manette qui est faite pour le PC au départ, où effectivement, parce que l'argument de vente, c'est qu'on retrouve un peu la précision d'une souris, avec les pattes cheloues, là. Bah, moi, si tu veux, pour jouer à des FPS, etc., comme je suis obligé de jouer à la manette, parce que... Et encore, là, je suis en train d'apprendre à jouer au clavier avec mon coude, mais comme je suis obligé, pour l'instant, si je veux vraiment jouer en mode difficile à des FPS ou des trucs comme ça, ou en multi, vaut mieux que je joue à la manette encore, parce que j'ai pas encore l'habitude du clavier. Si on me fournit une manette qui peut me permettre de regagner la précision d'une souris, parce que faut pas déconner, les souris c'est quand même voilà. Moi je dis pas non, hein. Je dis pas non parce que du coup ça me permettrait de bouger avec mon stick et de viser avec mon pouce comme avec une souris. Et là moi je dis oui, tu vois. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent à la manette, en tout cas qui sont comme moi, qui préfèrent jouer à la manette, qui seraient prêts à franchir ce pas-là. Hein.
Oui, parce que je rappelle à nos auditeurs qui seraient nouveaux, qui seraient pas au courant, c'est que Mamie n'a qu'une main pour jouer, donc voilà.
C'est vrai.
C'est compliqué le combo clavier-souris, tu vois, pour c'est tout de suite moins pratique, quoi. Ouais, bon, écoute, on verra. Dans tous les cas, oui, ce serait bien, hein, si c'est vraiment une innovation intéressante. Moi, j'attends de tester. En fait, j'espère juste que d'ici à ce qu'il la sorte, ils vont pas retirer encore des trucs, quoi. Parce que, voilà.
Ouais.
Allez, nous allons passer à la suite et nous allons parler des Kickstarter et autres Early Access. Alors, pour ceux qui auraient pas suivi l'actualité récemment, c'est un peu le bordel, quoi. Il y a des Kickstarter qui ont fait le scandale, n'est-ce pas? Je pense notamment à Confederate Express, qui est un jeu dont on avait parlé ici. D'ailleurs, je sais que certains de nos auditeurs ont financé ce Kickstarter parce qu'on en avait parlé. Je tiens à m'excuser auprès d'eux, d'ailleurs. si j'avais su plus tard. Confederate Express, donc, qui avait été financé sur Kickstarter, et il se trouve que son auteur avait prévenu ses contributeurs qu'une société l'avait contacté, que cette société lui proposait de financer donc les petites features qu'il avait promises en supplément en échange du fait qu'il bosse sur un de leurs projets à eux, c'est-à-dire qu'en gros il bossait autant moi sur ce projet-là en collaboration avec leur équipe et il le payait, quoi. C'était le deal à la base, et il se trouve que ça a traîné, puis que récemment on a appris que le projet sur lequel il bossait, au lieu de bosser sur Pro Confederate Express, eh bien ce projet-là a lancé un Kickstarter. Et il a fait la débilité de promouvoir ce projet-là sur le Kickstarter de Confederate Express. Donc je sais pas si vous imaginez à la place des gens qui attendent des nouvelles de Confederate Express depuis des mois, parce qu'il faut savoir qu'en plus le mec est pas très très actif quoi. Eh bien ces gens-là, ils ont un peu gueulé quoi. Voilà. Sans parler du fait que c'est très suspect comme Kickstarter, on a découvert des informations sur le mec qui tendent à laisser penser que voilà, c'est un peu une grosse arnaque en fait, finalement. Alors que là-bas, c'est un Kickstarter qui avait l'air très sérieux, hein. Je veux dire, il y avait une démo, tout ça, mais même quand il y a une démo, ça peut être une arnaque. Et donc, il y a ce cas-là, il y a aussi le cas de Double Fine avec Tim Schafer, où on a appris récemment que, eh bien... en fait, ils comptaient sur les ventes de l'épisode 1 pour financer l'épisode 2, alors qu'ils avaient dit que l'épisode 2 était financé à la base, donc ça veut dire qu'on s'est un peu foutu de notre gueule à un moment donné,
wow.
Et que apparemment, surprise, l'épisode 1 s'est pas vendu, et que bah il s'est vendu à moins de 200 000 exemplaires, hein. C'est 160K je crois, ou même pas 130K, il me semble, 130 000 exemplaires. Donc voilà, il s'est pas vendu des masses. Et que du coup, ça a retardé d'autant plus la sortie de l'épisode 2, parce qu'il doit trouver d'autres financements. Là aussi, ça gueule, quoi, c'est normal. Et y a aussi eu le Kickstarter des gens, je sais pas si vous connaissez, Yogcast, c'était... alors ça, pour le coup, celui-là, on avait été très critique à l'époque, c'est des podcasters, enfin des youtubeurs, pour être précis, il me semble, anglophones, qui donc avaient lancé leur Kickstarter pour financer un jeu, le jeu de leur rêve. C'est des mecs qui n'avaient jamais fait de jeu de leur vie, mais c'était pas grave. Ils avaient engagé des gars qui allaient faire le jeu à leur place, c'est super. Nous, à l'époque, on était très critiques, quoi, si vous voulez, parce que...
Ouais.
Je sais pas, moi, il y a quelque chose qui me dit attention danger. Bon, il se trouve qu'en l'occurrence, les gens y ont cru, ont filé plus de 500 000 dollars. Donc là, pour le coup, j'ai envie de dire bien fait pour leur gueule, mais après, je dis ça, je dis rien. Tout ça pour dire qu'il y a eu plein de scandales récemment sur Kickstarter, qu'il y en a eu récemment aussi en Early Access, ça date de pas plus tard que cette semaine. Je crois que c'est le lead designer des civilisations qui a décidé de lancer un espèce de early access qui coûte $80 et qui en plus te fait signer ce qu'on appelle un NDA, c'est-à-dire un non-disclosure agreement, c'est-à-dire que tu vas payer pour un jeu en bêta, même pas en bêta, je crois que c'est en alpha, et en plus tu vas pas pouvoir donner ton avis publiquement. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de...
Ouais.
Je suis désolé, je trouve pas d'autres termes, hein. De l'arnaque de la chose, quoi. Enfin, c'est... Déjà, à la base, l'early access, je peux comprendre qu'on soit pas partant pour, parce que c'est vrai que quand même, on paye pour être bêta-testeur, mais à la limite, je veux dire, tu sais pourquoi tu payes. Mais là où, par contre, là, ça me dérange, c'est que, en gros, maintenant... On te fait faire le job de bêta-testeur, sauf que tu payes pour le faire. C'est quand même... c'est ça, quoi. On te fait signer un non-disclosure agreement, quoi. Je trouve ça fondamentalement malhonnête, parce que pour peu que le projet aille mal, pour peu que ce soit la merde, tu ne peux rien dire. C'est fantastique.
Non, c'est malhonnête. C'est malhonnête, et puis... il s'expose à un risque, c'est que quelqu'un, du coup... casse le NDA auquel il sera soumis, quoi. Et j'espère d'ailleurs qu'il y en a un qui fera ça, parce que t'as pas le droit, enfin tu fais pas payer les gens pour qu'ils ferment leur bouche, pour être c'est poli.
Ce qu'ils disent, c'est pourquoi ils font ce système de NDA là, c'est pour que les gens n'aient pas une mauvaise impression du projet, en fait, qu'ils voient pas un jeu en alpha et qu'ils disent oulala c'est pourri, je vais pas l'acheter. Moi, je comprends ça, mais à ce moment-là, tu fais un truc gratuit où les mecs signent un NDA, et puis voilà, point. Encore mieux, tu engages des bêta-testeurs pour le faire. Formidable. Je ne comprends pas comment on peut renier à ce point-là les fondamentaux, que ce soit de Kickstarter ou du Early Access, qui veut que, comme tout le monde peut donner son avis dessus, il y a un climat de confiance qui se crée entre le développeur et le public. Ouais. Et c'est pour ça qu'on accepte, parce que c'est public, de dire « Ok, Coco, on te fait confiance, mais en échange, tu t'exposes à la critique. Ouais. » Et là, en gros, les mecs veulent le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, la vache, enfin, c'est n'importe quoi, quoi. On tombe dans des délires absolument. Moi, ça me dépasse. Je sais pas si toi, ça te tente, ce genre de système, mamie, mais pour tes futurs projets, faire payer les gens et leur faire signer un NDA.
Non, ouais, non, parce que j'ai un truc qu'on appelle de la dignité, mais après, bon, chacun son truc, hein. C'est malhonnête, c'est tout. Faut pas... Déjà le NDA en soi bon il est nécessaire quand tu fais un projet si tu veux à l'ancienne parce que t'as la pression d'un éditeur derrière si tu veux. Donc là même pas, t'as pas de pression d'éditeur si tu fais du financement participatif. Le principe même de quelque chose de participatif, c'est que les gens participent et ça se base aussi sur le sentiment d'appartenance à un projet que les gens ont en donnant de l'argent. Et là, pour moi, ça retire un peu ce sentiment d'appartenance parce qu'ils peuvent pas en parler. c'est débile. Enfin, non, c'est mal foutu, c'est débile, ça coûte cher, tout ça pour une bêta, c'est ridicule.
Bon, pourquoi on vous parle de tous ces cas là cette semaine? Parce que moi, ça fait un moment que je commence à cogiter là, parce que honnêtement, je vois les systèmes tels qu'ils sont faits. Honnêtement, si Kickstarter réussit à survivre, moi je pense que ça va être un miracle. Parce que, en tout cas, je ne vois pas comment des projets comme Project Eternity, ce genre de choses, qui ont fait 4 millions de dollars, etc., pourront à nouveau être financés sur Kickstarter, parce qu'il y a une défiance. Je l'observe sur les forums, je le vois sur les forums, et même je le vois dans les projets qui sont financés. Il y a une défiance qui se crée à l'égard de Kickstarter, qui fait que, par exemple, les seuls projets qui sont financés, ce sont les projets modestes, qui font à peu près du 100 000 dollars, qui ont des objectifs raisonnables, qui ont des petites équipes, où il y a un climat de confiance qui se crée. Et cette tendance-là, je l'observe depuis l'affaire Oculus, en fait. Mmh. Parce que ça, vraiment, ça a été le moment, si tu veux, où les gens se sont rendus compte que les gentils indés, etc., mon cul, dès qu'il y a du fric, ils s'en battent les couilles, voilà, et dès qu'il y a Facebook dans machin. Donc ça a créé un climat de défiance à l'égard de Kickstarter, et depuis, mon sentiment, c'est que ça va de mal en pis. Mmh. De l'autre côté, avec les Early Access, moi j'ai un autre souci, mais là c'est plus mon cas personnel, parce que pour le coup j'ai l'impression que les Early Access ça marche bien, hein, suffit de voir les ventes de Daisy, hein, je veux dire, il est encore dans le top des ventes de cible. Hein. Moi j'ai un souci avec un Early Access, et un souci tel, si tu veux, que je me méfie plus de l'Early Access que du Kickstarter, en fait. Alors qu'avant, c'était l'inverse, tu vois. J'avais une préférence pour l'Early Access, parce que justement, je me disais, au moins, l'Early Access, tu payes pour un truc, tu sais pourquoi tu payes. Mmh. Et tu as quelque chose de concret en échange. Alors que le Kickstarter, c'est trop, t'auras jamais rien, quoi. Sauf que je me rends compte d'une chose, c'est que l'Early Access, ça crée une situation où il y a des jeux qui se foutent de la gueule du monde, je suis désolé, je vais encore le citer, mais Daisy, par exemple, qui se vendent pendant des mois et des mois et des mois, qui n'avancent pas, mais vraiment qui n'avancent pas, quoi. Et où tu ne peux rien dire, tu ne peux n'émettre aucune critique, tout ça pourquoi ? Parce que le jeu est en alpha. Dès que tu émets une critique, dès que tu essayes de discuter avec les gens, on te dit alpha. Tu vois, c'est le mot magique, en fait. C'est une alpha, donc c'est normal. Que veux-tu répondre à ça? Logique implacable, si tu es une alpha, tu ne peux rien dire. Donc moi, ce système, je commence à de plus en plus m'en méfier, et ce d'autant plus que Steam est rempli maintenant à ras-bord de genre de trucs, parce qu'il y a encore moins de contrôle que sur Kickstarter, pour le coup.
Ouais.
C'est la fête du slip, quoi. Donc moi, je commence à réfléchir, si vous voulez, à des solutions pour régler le problème. Et pour moi, en fait, la seule solution qui pourrait être intéressante, en tout cas, ce serait un espèce de système comme Kickstarter actuellement, c'est-à-dire que le Kickstarter, ce que je trouve bien, c'est que une fois qu'il y a plus d'argent, il y a plus d'argent. Le projet s'arrête, on arrête de vendre des alphas, des machins, des trucs, on arrête ce système d'alpha permanente. Par contre, il y a un défaut, c'est que les promoteurs de projets n'auront aucune obligation vis-à-vis de leurs contributeurs, en fait. Alors, pour moi, il y a, je pense qu'il y a une solution qui est très simple, c'est que depuis le début, je dis qu'il y a une merde avec Kickstarter, c'est qu'il y en a un dans l'histoire qui se fait des burnes en or, qui n'en prend pas une, et qui pour le coup en fait de moins en moins depuis qu'il a décidé que en plus les promoteurs de projets pouvaient lancer un projet comme ça sans les consulter. Et ce quelqu'un, c'est Kickstarter en fait. Parce que je rappelle quand même que Kickstarter prélève une commission à chaque fin de projet et que cette commission c'est tout dans sa poche. Donc moi, ce que je dis, c'est que en fait, il faudrait constituer un fonds de garantie. Kickstarter révise sa la part qu'il prend pour lui et il constitue un fonds de garantie sur tous les projets. Et ce fonds de garantie sert à rembourser les contributeurs dès qu'il y a une couille. Il y en a un pour qui la solution, ça serait, en gros, tu es un actionnaire du projet, quoi. Moi, je suis absolument contre ça parce que, comme je dis souvent, je vois pas l'intérêt de remplacer un éditeur parmi les petits éditeurs, quoi. Je vois pas. C'est, pour moi, c'est exactement le même système, sauf que, alors, ok, peut-être que les gars seront plus sympas, mais quand je vois comment ça se passe sur Kickstarter, dès qu'il y a un truc qui va de travers, je me dis non, c'est une mauvaise idée. Pour moi, la solution, c'est vraiment d'avoir un système où les gens ont une garantie, à la base, que si le projet ne sort pas, en tout cas, ils seront remboursés. Et après, c'est à Kickstarter de se démerder avec l'auteur du projet, il l'attaque en justice, j'en sais rien. Et ça a le double avantage que, au moins, avec un système comme ça, la boîte, enfin le site qui s'occupe de gérer ces projets-là, il sera plus regardant sur les projets. Parce que Kickstarter, là, en plus, elle a fait du slip. Hein, c'est tout le monde sort des projets dessus maintenant. Il y a même plus besoin de consulter Kickstarter, machin. Voilà.
Effectivement, le système actuel ne va pas. Mais j'irais pas blâmer le système, en fait. C'est quelque chose voilà, c'est il va pas, mais je vois mal comment on peut faire plus. Alors si on peut faire comme tu dis, voilà, un fonds de garantie, des choses qui font que ça ajoute une sécurité. Mais en soi, lui, il est là, il fournit une plateforme où on peut mettre en avant un de ses projets et puis les
Pour moi, c'est pas une plateforme qu'il offre, en fait, c'est une vitrine.
Une vitrine, voilà. Oui, bah alors voilà, du coup, lui, il pose sa vitrine et il attend, quoi. Enfin, c'est ce qu'il fait.
Parce que moi, si tu veux, le raisonnement que j'ai, en fait, c'est que, quitte à avoir un système comme ça, moi, je préfère le donner directement au développeur, quoi, si tu veux. Parce que je vois pas l'intérêt d'aller financer un acteur qui ne fait rien pour enfin il y a moyen de faire un site gratuit qui regroupe les différents projets de financement participatif. Moi, ça me bouffe, quoi.
C'est de la visibilité.
Tu peux totalement faire un site gratuit qui aura exactement la même visibilité. C'est pas le souci, quoi. Il y a plein de sites qui font ça pour les projets indépendants, IndieDB, machin. Bon, voilà, quoi. Je vois pas pourquoi on pourrait pas faire le même pour Kickstarter, avoir un système avec Kickstarter, quoi.
Bah, parce que Kickstarter, ça fonctionne.
Voilà. Bah, parce que ça a été premier.
C'est
bien ce qui me pose problème.
Oui, non, mais je comprends tout à fait, Tyran. Je suis d'accord avec toi, mais on est dans le vrai monde. C'est tout. C'est comme ça. Il se prend une, enfin, moi, je suis un peu défaitiste là-dedans. Il se prend une commission, ouais, mais est-ce que ça empêchera les gens d'aller dessus? Non, parce que ça leur fait une putain de visibilité. Un truc à Kickstarter, quand tu vas chez Kickstarter, t'as quand même plus de chances de te faire, de valider ton projet et d'avoir plus de sous que si tu le fais sur Indiegogo ou sur Ulule ou, voilà, c'est horrible, hein. C'est comme ça. Et après, oui, bon, bah, il se prend une commission. Ouais, mais il y a plein d'autres trucs qui font ça et enfin je pense à, je ne sais pas moi, Blizzard à l'époque quand ils se prenaient une commission sur l'hôtel des ventes de Diablo 3,
ce qui était scandaleux. C'était
scandaleux, puis ils ont arrêté si tu veux, mais tu peux pas, enfin si tu peux dire bon c'est malhonnête, mais tu peux pas en vouloir au départ aux éditeurs d'essayer ce genre de choses, enfin aux éditeurs aux gens d'essayer ce genre de choses, quoi.
Attention, hein, moi j'en veux pas aux développeurs d'aller sur Kickstarter, c'est d'une logique, je veux dire, évidemment qu'ils vont aller dessus. Ce que je dis, c'est que le système tel qu'il est actuellement, en fait, je vois pas d'avantage, si tu veux.
Juste la visibilité.
Je parle pour celui qui va financer, hein, parce que c'est lui qui fait tourner la machine au final, hein, on est bien d'accord. Et le problème, c'est que actuellement, je pense que plus ça va aller, Et moi, il y a des gens qui vont financer, quoi. Alors, justement, tu disais que tu ne pensais pas que c'était la faute du système. Alors, je t'ai interrompu, donc il faudrait que tu développes ce raisonnement parce que ça m'intéresse, là, pour le coup.
Bah oui, c'est pas la faute du système. Le système est pas parfait, mais c'est pas possible d'avoir un système parfait. Mais c'est de la faute aux gens. Enfin, c'est... Alors, je sais que c'est... Je suppose que ça va t'énerver. Mais... J'ai jamais compris comment un système à la Kickstarter fonctionnait. Ben, on en a parlé plusieurs fois. Hein. Moi, j'ai toujours trouvé ça formidable et complètement incroyable. C'est, il y a des quelqu'un qui dit tiens, donne-moi de l'argent, j'ai envie de faire ça, et les gens ils donnent l'argent. C'est un truc qui m'a toujours rendu fou, moi. Hein. C'est voilà, c'est pareil. C'est comme les systèmes de dons, que ce soit là le Tipeee, là, le truc qui existe depuis un petit moment maintenant, ou les dons sur Twitch ou. Les gens donnent de l'argent sans, quasiment sans rétribution financière, sans retour. C'est-à-dire Kickstarter, là, t'as ton petit cadeau, bon, ça dépend combien tu donnes, ça peut être un gros truc, mais c'est souvent démesurément petit par rapport à l'argent que tu donnes.
Ah oui, par rapport à l'argent que tu mets, évidemment.
Enfin, et c'est normal, hein, il faut quand même faire de la marge. Mais c'est fou. Les gens continuent de donner. Et si tu veux Kickstarter, pourquoi Kickstarter fonctionne? Bah parce que t'as des gens qui donnent de l'argent. Et pourquoi il y a des dérives? Bah parce qu'il y a eu des toutes petites dérives qui ont fonctionné. Et les développeurs sont pas cons, hein. Ils voient qu'il y a une petite dérive qui fonctionne, personne qui râle au début, ils font bah on va essayer un peu plus, et ainsi de suite. Et là on en arrive à des trucs pas possibles. Mais c'est, si tu veux, c'est la même pente raide qu'à l'époque où on a commencé tout doucement les DLC. Et c'est parce que au final, on en revient toujours à, bah, il y a des gens qui achètent. Et du coup, il est là le problème. Les gens, le problème, c'est que les gens, à mon avis, sont pas assez éduqués.
Alors, attention, c'est pas, je crois qu'on s'est mal compris. Ça me pose aucun problème qu'il y ait des dérives sur Kickstarter. Je pars d'un pur constat, si tu veux. C'est-à-dire que de moins en moins de gens donnent sur Kickstarter. Je me dis, le système est en train de se casser la gueule. J'avais dit, au moment où il y allait y avoir des scandales, et j'avais dit qu'il y en aurait,
ouais.
Ça allait être l'épreuve du feu, et on allait voir si le système allait tenir ou pas. Là, ce que j'observe en ce moment, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, que pour les projets un minimum ambitieux, ça ne tiendra pas. Donc, moi, mon raisonnement basique, c'est de dire, ok, ce système ne marche pas. Parce que fondamentalement, je suis désolé, c'est un problème du système. C'est-à-dire que s'il y a des dérives, c'est qu'il y a quelque chose dans le système qui fait que, effectivement, on met pas assez de contraintes sur les développeurs à un instant T. C'est trop basé sur la confiance, si tu veux. Il n'y a pas un moment, un truc qui dit stop. Donc, pour moi, ce stop, ça peut être quoi? Ça peut être, bah, tout simplement déjà qu'il y a une sélection à l'entrée. Et ça peut être aussi que, si on veut que ça marche, parce que moi, je vois plein de gens qui sont partants pour ce système, mais qui disent, moi, tant que, en tout cas, on ne me garantira pas, soit que le jeu sort, soit que je sois remboursé, bah, pourquoi est-ce que j'adhère à ce système? Et ils ont raison.
Oui.
Je veux dire, attention, hein. Je tiens à le souligner, j'ai toujours dit que les gens qui ont ce raisonnement ont parfaitement raison. Il y a que les cons comme moi qui pour donner l'argent. Mais justement, ce que j'ai toujours dit, c'est que avec ce système-là, c'est qu'il fallait bien être conscient que quand tu donnes de l'argent sur Kickstarter, si ça se trouve, tu ne le reverras jamais. Moi, quand je fais mon bilan global, si tu veux, de cette expérience-là, pour moi, c'est une expérience extrêmement positive. Parce que y a plein de jeux que j'ai financés, mais putain, mais comme je suis content de les avoir financés, quoi. Enfin, le positif remplace totalement le négatif, si tu veux. Mais j'observe que malheureusement, je pense que là, on va droit dans un mur. Et malheureusement, pendant que j'observe ça, je regarde à côté ce qui marche. Et ce qui marche, c'est un système qui, à mon sens, est encore pire. Et ce système, c'est l'Early Access. Voilà.
Early Access. Oui. Oui, mais ça marche, c'est normal. Enfin, pour moi, l'Early Access bien fait est moins vicelard que Kickstarter, hein. Parce que t'as le produit tout de suite, si tu veux.
Pourquoi je dis que il est plus vicelard pour moi? Parce que je pense qu'à un niveau plus global, si tu veux, il est plus nuisible pour le jeu vidéo dans son ensemble. Parce que Kickstarter, comme je l'ai dit, quand ça s'arrête point. Alors que l'Early Access, il introduit une notion, y compris dans les jeux qui ne sont pas censés être en Early Access, qui fait que les gens s'accoutument de plus en plus à avoir des jeux qui ne sont pas finis. Pour moi, l'Early Access, c'était viable tant qu'on disait que, ok, le jeu, à un moment donné, il passe gold. Et là, il y a un certain nombre de choses que je tolérais jusque-là, que je ne tolère plus. Parce que le jeu, il est censé être fini. Sauf que je me rends compte que c'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire que, finalement, les jeux, ils ne passent jamais gold. On a des machins comme Daisy, encore une fois, qui se vendent, alors que ça progresse pas, tu peux rien, et il n'y a pas de test dessus parce que le jeu n'est pas sorti, et puis, même vis-à-vis de la critique, tu vois, c'est pas encore intégré dans l'aspect critique de la chose, c'est n'importe quoi, quoi. Il y a aucun garde-fou sur l'Early Access, alors que au moins sur Kickstarter, il y a un garde-fou minimum qui est l'argent, tu vois. C'est-à-dire que quand il y a plus d'argent, ben il y a plus d'argent. Tu peux pas prolonger à vitam aeternam, et pour peu que tu prennes les gens pour des coups, en plus ils te redonneront pas de l'argent derrière, quoi.
Ouais, je suis pas entièrement d'accord. Forcément, ça se répète parce que finalement on finit par vraiment connaître nos avis. Et t'as une vision un peu trop protectrice des gens. Il faut les protéger, foutre des...
Alors, attention, je te précise une chose. J'en ai rien à foutre des gens. C'est pour ma gueule que je pense.
Mais non, mais bien sûr.
Est-ce que moi, ce que je vois, là, c'est que, attends, mais si on continue comme ça, mais pourquoi les développeurs vont s'emmerder à sortir des jeux finis?
Mais
pourquoi?
Ça fait combien de temps que les ça fait longtemps que les développeurs sortent des jeux pas finis?
Attends, non mais attends, il y a une nuance entre sortir un jeu un peu buggé et sortir un machin comme Daisy qui
Oui, non mais je suis d'accord.
Enfin, je sais même pas comment qualifier ça, quoi.
Il y a une nuance, cette nuance ça s'appelle le temps. Hmm. C'est tout, le temps. Les gens ont vu que les jeux buggés ça sort, ça se vend. Ils se disent je vais sortir un jeu pas fini. Puis ça sort et ça se vend, et ben ça va continuer, c'est ce que j'essayais de dire. Il y a un effet engrenage. On parlait de ça tout à l'heure en rigolant, en parlant du truc qui va avoir au Grand Rex, là. Mmh. les gens ne sont pas suffisamment éduqués sur le monde du jeu vidéo, sur le monde de la consommation en général, parce que la télé, on pourrait en reparler, le cinéma aussi, mais là, pour ce qui nous intéresse, les gens ne sont pas suffisamment éduqués pour le monde du jeu vidéo, ils achètent n'importe quoi, les développeurs ils voient quoi que les gens achètent n'importe quoi, et le but d'un... Enfin, les développeurs plus les éditeurs, hein, remarque. Mais les éditeurs, c'est quoi leur boulot? C'est de faire du pognon. Bon, si ils vendent n'importe quoi, ils vont faire plus n'importe quoi. Ah, ça se vend toujours, on continue. C'est... Voilà, il y a un problème d'éducation des gens, et c'est ce que tu disais au début de Kickstarter, il y a un an, enfin, pas au début, mais qu'on a commencé à pas mal en parler dans les podcasts, il y a un an, deux ans, voire trois ans, où tu disais... Faites attention, t'essayais d'éduquer les gens sur Kickstarter, je me souviens, en leur disant, votre argent, vous le mettez, vous pouvez ne pas voir la couleur, ne serait-ce que de ce que vous financez, etc. Faites très attention, t'essayais d'éduquer les gens. C'est bien que tu savais, comme moi, que les gens ne le sont pas. Et comme les gens ne le sont pas, les dérives, eux ne voient pas que ce sont des dérives. Nous, on le voit, parce que si tu veux, on est dans le milieu, mais eux, ils ne le voient pas. Et le problème, c'est que, le monde du jeu vidéo est tellement obscur, encore aujourd'hui, que les gens vont continuer à se faire avoir. Et tu pourras mettre autant de garde-fous que tu veux. T'inquiète pas que les développeurs, ou les gens qui mettent les projets, ou que ce soit des éditeurs, ou voilà, les commerciaux, peu importe, vont trouver un moyen de le détourner. Il faut éduquer les gens. Et c'est pas en leur foutant des barrières pour les protéger, certes, mais c'est pas en foutant des barrières à des trucs comme Kickstarter que ça va fonctionner. Alors c'est sûr que utopiquement, c'est ce qu'il faudrait faire parce que ça éviterait aux gens, toi compris du coup, de te faire avoir. Mais on n'avancerait pas parce que voilà.
Alors moi, mon problème sur Kickstarter, encore une fois, c'est pas de me faire avoir. C'est une règle tacite pour moi. Et ça m'arrivait d'ailleurs, je tiens à le préciser. C'est pas forcément des projets dont je parle, hein, mais voilà. Il y a certaines expériences sur Kickstarter qui me font assez mal au derrière, je dois l'avouer. Mais encore une fois, j'ai accepté les règles du jeu. Ce qui me fait chier, là, c'est que je pense que avec Kickstarter, il y a un potentiel, et que pour peu qu'on corrige un détail qui fait que, en gros, les développeurs qui s'en assument n'ont aucune responsabilité, pour peu qu'on fasse ça, il y aurait moyen d'avoir un super système qui marcherait, je pense. Et que, à côté, je vois l'alternative qui est en train de se développer. Et attention, hein, je veux dire, je suis pas tout blanc dans cette histoire non plus, parce que Minecraft, c'est un jeu dont j'ai énormément parlé, etc. C'est quand même le jeu qui est la base de ce mode de financement, je veux dire, hein.
Oui.
J'ai fait une promotion de ce système, moi, au départ, personnellement. Mmh. Parce que j'avais cette croyance assez idiote que, à un moment donné, à un instant T, le jeu allait sortir et il serait fini. Mais je me rends compte, enfin, force est de constater que c'est faux, quoi. Ce qui m'agace d'autant plus, c'est que comme c'est pas les éditeurs qui font ça, ça passe comme une lettre à la poste. Alors qu'un éditeur fait ça, mais putain, mais je t'assure que la minute qui suit, c'est une explosion sur Internet, quoi. Mais là, c'est des indés, c'est pas grave.
Non, mais ça va venir. Ça va venir. C'est comme je te dis, Kickstarter, c'est nouveau. Les éditeurs, ils existent depuis le jeu vidéo, quasiment. Déjà, la grogne, elle commence à monter petit à petit, hein. Bon, bah voilà. Attends un an, ils pourront plus faire ça. Je veux dire, c'est... Il faut le temps. Et puis, malheureusement, pendant ce temps-là, ils vont s'en foutre plein les poches, à être malhonnête. Et quand ils auront fini ça, ben, ils trouveront autre chose. Tout mode de financement a des dérives au départ qui font qu'à un moment, ça va se casser la gueule, on va en trouver un autre, il aura ses dérives, et ainsi de suite. Parce que dès que tu mets du pognon, tu peux pas faire en sorte qu'un système soit 100% honnête. Mais c'est dégueulasse. Et c'est normal que ça énerve. Ça, je comprends tout à fait. Mais il faut être réaliste. Tant qu'il y a des thunes, les gens font toujours tout pour en avoir le plus possible, d'une manière ou d'une autre.
Bon, mamie.
Oui.
On commence à approcher de l'heure du podcast.
Oui.
Donc, je te propose que nous passions au plat principal.
Oui.
C'est un jeu, justement, qui a été financé sur Kickstarter.
Oui, c'est vrai.
Et ce jeu, c'est Shovel Knight. Normalement, vous avez entendu une superbe musique qui va vous rester dans la tête, et je sais que vous me hassiez.
Oh oui.
Donc, Shovel Knight, c'est un jeu inspiré de tous ces titres cultes de la génération NES, Megaman, la bande à Picsou, enfin, comment il s'appelait le jeu Picsou, là ?
DuckTales.
DuckTales, exactement. Enfin voilà, c'est un jeu vraiment qui s'inscrit dans cette lignée-là, qui reprend les codes des jeux de NES, à ceci près que je vous assure que jamais de la vie il tourne sur une NES. Hein. Il a pris l'esthétique, mais jamais de la vie ça tourne sur une NES, ce machin. Hein. Et voilà, donc Mamie, c'est un jeu que toi tu connais bien.
Un peu.
Donc est-ce que tu peux nous présenter le concept rapidement et voilà.
Ouais, ben rapidement donc Shovel Knight donc comme l'a dit Tyran, c'est un jeu plateforme action. C'est un très très bel hommage au jeu rétro. Il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, le 26 juin de cette année. Il a été développé par Yacht Club Games et donc édité par tout le monde vu que c'était un Kickstarter. Et oui, effectivement, voilà, ça fait penser à un jeu NES. Moi, ça me faisait plus penser à un jeu Super Nintendo, mais bon, les différences sont quand même voilà. Ce serait même pour de la Super Nintendo, ce serait un jeu de toute fin de vie avec une Super Nintendo craquée, parce qu'à mon avis, ça tourne pas non plus une Super Nintendo. Mais voilà, donc c'est un jeu plateforme action où on joue donc le Shovel Knight, donc le guerrier à la pelle, qui doit se battre l'enchanteresse qui a plus ou moins capturé ou tué, on sait pas encore au début du jeu, le Shield Knight, qui est une chevalière, donc sa spécialité, elle, c'est son bouclier. Et pour ça, il va falloir traverser donc des niveaux répartis sous forme d'une world map, un peu à la Super Mario World. Il va falloir traverser des niveaux thématiques. Et ces niveaux thématiques sont terminés à chaque coup par un boss qui est un chevalier différent, qui a sa propre spécialité. Voilà. Et tout au long du jeu, du coup, vous pouvez aussi ramasser tout un tas de collectibles, donc la plupart du temps, c'est des sous qui vont vous permettre d'acheter des améliorations de points de vie, des améliorations de points de mana, ou des améliorations de votre pelle, ou des armures qui vont vous donner des petits pouvoirs différents, et pour augmenter les capacités de votre personnage, et pouvoir à la fin donc terminer le dernier niveau, qui fait encore une fois penser à Megaman. Ça fait un peu Dr. Willy d'ailleurs, avec une forteresse en trois parties. Un boss rush comme il se doit, et donc le dernier boss forcément deux phases. Voilà. Et voilà pour le principe.
Bon, Mamie, je constate que tu me parles d'un jeu qui a visiblement fait ses classiques, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui te plaît sur ce jeu, du coup? Parce que j'ai pas l'impression qu'il innove. Fondamentalement, je veux dire, voilà, c'est une formule qu'on connaît, quoi. Certes, il pille à droite, à gauche, mais pourquoi tu es tombé amoureux de ce jeu? Parce que je sais que tu es tombé amoureux de ce jeu.
Bonne question. Quand j'ai découvert, on y a joué tout à fait innocemment avec un ami qui est lui-même aussi en études de GD. Et on l'a fait d'une traite, déjà. Donc déjà, c'était mauvais signe. Pourquoi? Déjà, son look. C'est du 8 bits, mais très beau, quand même.
C'est la très belle imitation NES.
Très belle imitation NES, ouais. C'est qu'est-ce qui se passe si la NES n'avait pas une limite à 8 couleurs, tu vois? Bon, ben, ça fait des belles choses. Donc c'est une très belle imitation NES. C'est il y a des animations qui sont clairement pas faisables sur NES d'ailleurs, parce que
ouais, les sprites sont énormes. Allez,
hein, t'as des gros sprites, t'as des animations super détaillées. T'as par exemple t'as le Polar Knight qui porte une espèce de fourrure, et avec le vent t'as la fourrure qui fait tu vois le vent dans la fourrure, donc ça c'est clairement pas possible, je pense. Voilà, mais en tout cas bon, voilà, c'est très beau d'une part.
Il y a un gros travail artistique, ça il faut le reconnaître.
Oui.
J'ose même pas imaginer comment ils se sont fait chier, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le principe, c'est de reproduire la NES, quoi. Et ils se sont fait chier, ils se sont donné du mal.
Tu m'étonnes.
Reproduire la NES, mais sans faire de la NES. C'est fort.
C'est fort, et c'est en tout cas très bien rendu. Ensuite, donc ça, c'est pour l'aspect graphique. L'aspect musical est tout simplement génial. Enfin, l'OST reste dans la tête. En plus, elle est très bonne. C'est franchement du niveau d'une OST de Megaman ou des jeux vraiment emblématiques de l'époque, hein. Puis ça reste dans la tête, hein. Bon, faut dire que je le refais plein de fois, mais ça reste quand même dans la tête. Et Tyran va pouvoir vous le confirmer. Ça reste dans la tête, mais c'est pas gênant parce que c'est vraiment de la bonne musique.
Ça accompagne l'action mais avec un degré d'épicness, si vous voulez. On est dedans. Ça accompagne tous les tableaux, ça colle, il y a eu une réflexion sur le plan musical qui est...
Chapeau. Alors c'est de la chiptune, hein, je rappelle. Enfin, je rappelle, non, je le dis. Toujours pour coller à l'esprit NES. Donc voilà, l'aspect musical et graphique, déjà en soi, c'est tellement une réussite qu'on ne peut qu'aimer le jeu. Mais pourquoi l'adorer comme je le fais, ou complètement même être amoureux de ce jeu? Eh bien, là, par contre, ça, c'est parce que ce jeu a parlé au GD qui est en moi. C'est-à-dire que chaque niveau, voire parfois même plusieurs tableaux d'un niveau, a sa feature de gameplay bien à elle. Et a ses briques de LD vraiment spécifiques. Mais bien pensées. Et au final, c'est ce qui fait le sel du jeu, c'est que on s'ennuie jamais, et pendant 5 heures, ça se renouvelle. C'est parce que, par exemple, bon déjà le Shovel Knight, donc sa capacité, l'une de ses capacités phares, c'est de faire un shovel jump. Donc en fait, on saute, il met sa pelle vers le bas et ça permet de rebondir soit sur un ennemi, soit sur un élément de décor destructible.
Donc ça, c'est repris de DuckTales.
C'est clairement repris de DuckTales. Mais voilà, et ça permet tout un tas de trucs et il y a tout un tas d'idées, si vous voulez, dans le level design qui sont énormes. Je pense rien que par exemple, il y a un niveau, c'est la Clock Tower où on est contre le Tinker Knight du coup. Dans ce niveau-là, donc il y a des plateformes. Bon, certes, on a vu ça dans tous les autres jeux, ça, il n'y a pas de souci. Il y a très peu de features, je pense, originales à ce jeu-là. Ouais. Mais c'est le level design, si vous voulez, qui est parfait. Il place ses briques. Donc, par exemple, il y a des tapis roulants qui vont vite. Bon, voilà, ils les ont placés d'une telle manière à ce que le niveau soit... C'est jouissif à finir. C'est-à-dire que souvent, au début, on va mourir bêtement. Mais on perd pas trop... Enfin, c'est pas hyper frustrant, on va pas mourir 50 000 fois comme dans un Dark Souls. On va mourir une fois, deux fois, et puis après on a compris.
Oui, d'ailleurs tu parles de Dark Souls, tu le fais bien, parce que le système de mort est inspiré de Dark Souls en plus.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris que des idées de gameplay qui datent de l'Antéchrist, hein. Ils ont pris aussi des idées de gameplay récentes, notamment ce qui concerne la mort. C'est-à-dire que comme dans Dark Souls, tu sais, tu tombes sur ce qu'on appelle un bonfire, donc un feu de camp. Mm. Et si tu crèves, il y a tes âmes, qui donc la monnaie du jeu, qui reste sur place. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas tomber sur des espèces, un espèce de cristal. À ceci près que, contrairement à Dark Souls, tu peux détruire ce cristal pour gagner de l'argent.
Oui.
Ce que tu ne fais jamais, d'ailleurs. Sauf quand tu es un hardcore, quoi. Et si tu meurs... tu vas perdre de l'argent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de sacs qui vont s'envoler avec des petites ailes là, et il va falloir que tu récupères ces sacs avant ta prochaine mort, sinon l'argent sera définitivement perdu, comme dans Dark Souls. Exactement la même chose que dans Dark Souls. Et ça, j'ai trouvé très intelligent, parce que quand tu es un mec comme moi qui aime bien payer des trucs, ça crée une petite pression, tu vois. Hein. il faut que je récupère mon argent, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, ça permet, tu vois, de respecter certains codes qu'on a vus dans les jeux de plateforme récents comme Super Meat Boy, où la mort est pénalisante, mais elle n'est pas frustrante à un point... voilà, c'est pas comme les jeux à l'époque où quand tu mourais, tu devais te retaper tout le niveau à partir de là. Enfin, ça pouvait être relou, quoi. Là, je trouve que le level design est vraiment bien pensé, quoi.
Ouais, le level design est bien pensé. Tout est bien pensé. Il y a des features gameplay vraiment sympas. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elles ne reviennent pas à chaque coup. C'est-à-dire que chaque niveau a ses briques de LD propres. Par exemple, au niveau de la mort, parce qu'à un moment on se bat contre, c'est pas la mort, c'est le Spectre Knight, mais enfin elle fait penser à la mort parce qu'elle a une faux. T'as des plateformes qui baissent suivant le poids qu'il y a dessus. S'il y a trop de poids, elle baisse, sinon faut sauter, comme ça elle remonte. Ces plateformes-là, on les revoit plus après. C'est sur ce niveau. Ils ont pas fait le vice de repomper des bonnes idées, mais dans tous les niveaux. Alors bien sûr, il y a le dernier niveau qui fait office un peu de reminder, où t'as tout un tas de features qui reviennent, de briques de LD qui reviennent, parce que bah c'est le château, quoi. c'est toujours ouais. Comme ça. Et ce qui est bien, c'est que même là-dedans, si tu veux, ils ont récité... en fait, c'est une leçon bien récitée. Voilà, à la fin du château, il y a le boss rush. Et puis, après le boss rush... t'as un petit niveau qui sert à rien avec quoi deux trois tableaux qui sont là, qui ne sont pas difficiles, mais ils sont là juste pour te foutre la pression, pour installer l'ambiance avec une petite musique très minimaliste qui est là pour te dire attention, là c'est le boss de fin. Et puis à la fin, t'arrives sur le boss de fin. Mais voilà, c'est. Et pour répondre à ta question de départ, pourquoi alors, enfin, il innove pas. Alors qu'est-ce qui fait que c'est que et il me semble qu'on a déjà eu cette discussion à propos de je ne sais plus quel jeu d'ailleurs. C'est que oui, ça n'innove pas. Ça n'innove pas tant que ça. Quoique, à mon avis, un jeu 8 bits de cette qualité, j'en ai rarement vu, même à l'époque, parce que, par contre, il a pour lui aussi une gestion du personnage qui est quand même pointilleuse, quoi. C'est, y a certains jeux 8 bits d'époque où, enfin, pardon, mais la physique, on jouait avec un tank fait en savon, quoi. Enfin, c'était, c'est quelque chose. Là, le personnage répond au poil de pixel près, et je sais de quoi je parle, du coup, on peut vraiment le contrôler parfaitement. Et comme je disais, du coup, oui, t'as pas besoin d'innover pour faire un jeu parfait. Au contraire, c'est Shovel Knight, c'est l'exemple même des gars qui ont compris tous les codes du jeu vidéo d'époque, qui ont pris, comme tu disais, quelques codes du jeu vidéo de maintenant, et qui ont fait tout un mélange, qui ont fait que, eh ben, c'est un jeu qui récite parfaitement, c'est une partition jouée à la perfection. Et de temps en temps, de la bonne musique classique jouée à la perfection, bah, c'est plus agréable à l'oreille qu'une musique expérimentale, certes belle, mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est, voilà. Et là, Shovel Knight, c'est ça. Et Shovel Knight, de par le fait qu'il a réussi aussi parfaitement à faire du jeu d'époque, quelque part, c'est ça qui est novateur. C'est que, on avait rarement vu un jeu de ce style aussi bien fait.
Que rajouter à ça? Ah si, moi j'aurais quand même un défaut à les reprocher, hein, parce que moi je suis un vieux de la vieille, hein, je suis un peu casse-couille. Je le trouve, en tout cas sur sa difficulté de base, trop facile. C'est-à-dire que en tout cas sur les fights, les boss, mais je leur ai roulé dessus, mais d'une force. Bon après, je veux dire, moi je suis le mec Megaman, tout ça. Bon, c'est un peu, j'étais dressé à ça, hein, donc je parle de dressage.
Seulement.
Donc voilà, c'est des codes que je maîtrise parfaitement. Je suis arrivé dans les boss, j'ai fait, ok les mecs, brouh, salut, au revoir. Et c'est d'autant plus facile si tu veux. Tu débloques des espèces d'améliorations shitées, mais
ah oui, ça,
un truc de fou, quoi. Genre, l'amélioration, tu sais, l'espèce d'armure grise, là, qui fait que quand tu sautes deux fois sur un mec, ça te recharge automatiquement un coup, que tu lui mets dans sa tronche derrière, c'est monstrueux, hein. Tu peux faire des trucs avec ça, mais voilà, quoi. Et en fait, pour moi, le jeu prend vraiment toute son ampleur en New Game Plus. Parce que là, pour le coup, les boss, ils sont beaucoup moins faciles. Vu comment ils tapent, c'est beaucoup plus difficile, en fait, en New Game Plus.
C'est vrai que ce jeu, alors c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est qu'il est, on a vraiment l'impression, et je serais prêt à parier là-dessus, que ils ont pensé au speedrun. Mmh. C'est-à-dire que t'as l'objet, par exemple, l'espèce de bouclier cœur, là, qui, contre 8 points de magie, te rend invincible pendant 3 secondes. Non seulement il te rend invincible pendant 3 secondes, mais là où c'est le plus fort, c'est qu'il fait une pause dans l'animation du personnage et qu'il relance une animation. Par exemple, quand tu chutes, il recalcule la physique de ta chute par rapport à ta position actuelle. Ça veut dire qu'en soi, si t'as suffisamment de points de magie, tu peux sauter un très large trou juste en spammant cette touche-là pour relancer à chaque coup la physique du personnage. Donc en fait, il va traverser un grand gouffre. Voilà, c'est des choses comme ça. Je pense que le jeu a été pensé pour, notamment le fait que cette invincibilité dure que 3 secondes, c'est extrêmement court au final, et t'as le level design qui a été pensé pour, du coup. Et c'est là où le level design, du coup, est à mon avis excellent, c'est qu'il a été pensé pour un joueur qui est complètement invincible, pour que ça continue à être difficile pour un joueur invincible. Donc voilà, c'est des choses qui ont été pensées. Et le jeu est sorti, donc, comme je le disais, le 26 juin, d'accord ? Et il est runné par extrêmement beaucoup de monde, mais surtout, il y a énormément de catégories différentes. Et pour moi, un jeu complet et bien fait est capable d'avoir énormément de catégories différentes, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a le Any% où il suffit de le terminer normalement, il y a le New Game Plus où il faut le terminer en New Game Plus, et c'est, comme tu l'as dit, plus dur parce qu'il y a moins de checkpoints, les fameux cristaux dont tu parlais, et du coup, on se prend 1,5 fois plus de dégâts, je crois. Et sachant que si tu veux runner le New Game Plus, tu utilises l'armure qui te permet d'avoir plus de magie, mais qui du multiplie par, qui je crois qu'il multiplie par 2 tes dégâts, donc tu te prends 3 points de dégâts dans la tronche au moindre coup. T'as l'allo pour cent, c'est celle que je fais, c'est-à-dire qu'il faut finir le jeu sans rien prendre du tout, donc il faut finir avec 4 cœurs, on va dire. T'as la 100%, faut...
Tu es fou, je tiens à insister.
Oui, bah oui. T'as la 100% où il faut tout rattraper parce que j'ai oublié de parler des collectibles. Autre que de l'argent, c'est-à-dire que t'as donc toutes les reliques, donc tous les objets qui te donnent des pouvoirs, mais t'as aussi toutes les notes de musique qui te permettent de débloquer les BMP, la bande son. Donc voilà, t'as 100%, c'est de tout choper. T'as la Any% Reliqueless, donc c'est la Any% où t'as le droit de ramasser des points de vie, mais t'as pas le droit d'utiliser d'objets. Et la Any% No Overworld RNG, machin. Enfin bon, il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories différentes. Ce qui montre que pour un jeu qui au final n'est pas très long, parce que quand on le finit sans speedrunner, on a pourquoi, la première run, il y en a pour 4-5 heures, à peu près. Sans être très long, il a tellement de petits trucs qu'il en devient extrêmement complet. Et c'est vrai que pour un jeu comme ça, hein, bien entendu, c'est moins complet qu'un Dark Souls, par exemple. Parce que dans Dark Souls, ben, il y a du loot, il y a des trucs comme ça. Ou c'est même moins complet qu'un Super Mario 64. Enfin là, je suis en train de dire n'importe quoi, qu'un Super Mario World, parce que Super Mario World a plus de niveaux, parce que bon. Mais il est extrêmement complet pour lui-même. C'est-à-dire que finalement, comme je disais, il vaut mieux 8 ou 9 niveaux, je me rappelle plus exactement, complet, que 90 niveaux vides. Et mal foutu. Et c'est pour ça que encore une fois, Shovel Knight, finalement, et la preuve, c'est qu'il y a énormément de gens qui le run. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui le run. Et souvent, un jeu qui est beaucoup runné, c'est un jeu qui a beaucoup plu, parce que comme je l'ai dit précédent, il faut aimer ça, hein. Donc c'est un jeu qui a beaucoup plu, et donc c'est un jeu, ben, franchement, qui vaut largement le coup. Et il coûte quoi? Il coûte 15€ si j'ai pas de bêtises sur Steam. Enfin, c'est pas grand chose, quoi. C'est pour ce que c'est, franchement, ça les vaut, quoi. C'est franchement un excellent jeu.
Voilà. Bon. Pour peu que vous soyez amateur de jeux de plateforme et un peu rétro,
oui.
Franchement, c'est...
C'est une perle.
Ah, c'est une perle. Moi, honnêtement, en plus, la critique que je lui fais, c'est pas vraiment une vraie critique, parce que moi, le sentiment que j'ai, si tu veux, c'est qu'en fait, le mode de base, c'est une espèce d'introduction au jeu, si tu veux.
C'est ça.
Et derrière, t'as le New Game Plus. T'as le vrai jeu, en fait, derrière, quoi. Maintenant, fais-le avec le vrai challenge de l'époque, quoi, en gros. C'est ça.
C'est ça, c'est ça.
Je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement intelligent, qui est très bien fait. Enfin, comme tu dis, c'est un classique, fait avec les moyens d'aujourd'hui, et c'est beau. Voilà. Bon, je te propose qu'on s'arrête là, même.
Bah, écoute, oui.
Parce que là, je veux dire, on peut pas rajouter grand chose, hein. C'est parfait. Donc, on donne rendez-vous aux gens pour qu'ils te suivent durant ton marathon, n'est-ce pas? Alors moi personnellement, je m'engage pas à vous donner rendez-vous pas la semaine prochaine, parce que je ne sais pas qui est présent, qui est absent, machin bidule là.
Ouais.
Donc voilà, rendez-vous peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Allez, on vous souhaite un bon week-end, un bon été, de bonnes vacances. Ciao à tous, bisous.
Salut tout le monde.